Bonsoir et bienvenue dans ces 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au sommaire ce soir, un avant-goût du retour des jours heureux pour certains. Les États-Unis rouvrent leurs frontières à partir de demain. Les voyageurs devront présenter la preuve d'une vaccination complète ainsi qu'un test négatif. Une habitude de voyage que certains ont vite repris. Nicolas a déjà son billet pour New York.
Je vais à New York voir mon frère qui habite là-bas depuis 2 ans. Il avait emménagé là-bas juste avant le Covid. Et j'y vais avec mon père, on part mercredi tous les deux et on revient dimanche soir. Plutôt ravi d'avoir cette chance.
En France, l'épidémie inquiète et le Covid revient au cœur des préoccupations. Troisième dose, passe sanitaire, cinquième vague. Emmanuel Macron doit prendre la parole demain, mardi soir, après-demain, mardi soir. Masque obligatoire dès demain matin dans les écoles primaires de 61 départements. Météo capricieuse et retour sur Terre reporté pour Thomas Pesquet. L'astronaute français et ses 3 coéquipiers ne devraient quitter la Station Spatiale Internationale que dans la nuit de lundi à mardi. Dans ce journal également, le procès du siècle en Italie. La justice a condamné 70 membres d'un groupe mafieux. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport. Au menu du tennis et la victoire de Djokovic au Masters 1000 de Paris. Du football et la victoire de Saint-Etienne, la première de la saison. Et puis bien sûr la Transat Jacques Vabre. Départ donné à 13h27. Les bateaux ont pris le large. La page agenda avec les temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Et puis bien sûr, notre rendez-vous incontournable, c'est mon actu, Sandrine Houdin, spécial rêve d'enfant avec les vitrines, l'animé de Noël, la météo, nuages au nord, retour du soleil par le sud. Jean-Michel Golinski, prévision complète à la fin de ce journal. À 19h20, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 10 ans, je voudrais savoir si c'est vrai que les Français sont grognons. Merci, au revoir.
Les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Comment remobiliser et reprendre le dessus sur le Covid alors que le virus revient au cœur de nos vies? L'épidémie regagne du terrain en France et selon l'OMS, l'Europe est redevenue l'épicentre de la maladie. Emmanuel Macron doit s'exprimer après-demain, soir, mardi. Le chef de l'État va devoir trouver la bonne façon d'accélérer la vaccination entre contraindre ou convaincre les Français de la nécessité d'une troisième dose de vaccin. En attendant, pour certains Français qui veulent voyager aux États-Unis, c'est en quelque sorte, et malgré la reprise de l'épidémie en France, un début du retour des jours heureux. Les compagnies aériennes se sont d'ailleurs mises en ordre de bataille pour accueillir dès demain les voyageurs vaccinés de 33 pays autorisés à revenir aux États-Unis après 18 mois de fermeture des frontières. Antoine Cavalier-Roux a rencontré un voyageur soulagé, son billet pour New York en poche. Nicolas, parisien la trentaine, il part mercredi pour voir son frère.
Nicolas part avec son père, c'est la dernière ligne droite après une longue, très longue attente.
Lui n'avait pas pu venir en France pendant la période de Covid et nous non plus, principalement dû aux restrictions américaines. Et c'est pour ça qu'on en profite d'y aller au moment de la réouverture.
Malgré plusieurs années d'expatriation aux États-Unis, le frère de Nicolas a souffert de cette séparation forcée. Il aurait pu rentrer l'été dernier, mais sans garantie de pouvoir retourner à New York.
Mais là, c'est vrai que je pense que ça a été particulièrement dur, surtout pour lui en fait, qui venait d'emménager à New York au moment où il y avait de sacrées restrictions, donc forcément c'était plus compliqué de se créer de bonnes relations, que ce soit amicales ou plus. Et je pense que ça a eu en tout cas un plus gros impact sur lui que sur nous, et c'est pour ça qu'on se fait plaisir en allant le voir.
Ces derniers jours, les sites des compagnies aériennes sont pris d'assaut, les prix s'envolent. Chanceux, Nicolas a payé son billet 400 €. Plusieurs conditions à remplir pour accéder au territoire américain, être vacciné.
Mais en plus, on a besoin de faire un test PCR, même si on est 100% vacciné. Donc on fait un petit peu attention quand même quand on sort, parce que ça serait quand même dommage de choper le Covid entre-temps.
Et Nicolas doit également remplir une fiche délivrée par sa compagnie permettant aux autorités américaines de suivre les voyageurs durant leur séjour.
Et en France, face aux craintes d'une cinquième vague, le protocole sanitaire se renforce et se précise. Hier, le Premier ministre Jean Castex annonçait que le masque serait obligatoire au ski, dans les files d'attente, des remontées mécaniques, et le pass sanitaire au ski reste, lui, pour l'instant en réserve. À l'école aussi, dès demain, au retour des vacances de la Toussaint, il faudra porter un masque pour les élèves du primaire dans 39 nouveaux départements. Une mesure, selon Rodrigo Arenas, représentant des parents d'élèves de la FCPE de Seine-Saint-Denis, qui a été prise, selon lui, avec un peu d'incohérence.
alors que tout le monde attend l'allocution du président de la République mardi. On annonce des choses pour l'école lundi. Ce sont des mesures qui sont déconcertantes pour les parents, puisqu'un jour on le met, un jour on le met pas. Il serait bien que les plans qui se mettent en œuvre soient généraux, soient globaux et soient cohérents pour que tout le monde puisse les appliquer. Mais pour les appliquer, encore faut-il, encore une fois, que les moyens soient au rendez-vous. Et comme vous le savez, vous et moi, on est loin d'être dans cette situation dans les écoles françaises. Tant que tout le monde n'est pas vacciné, la seule façon de se protéger reste les gestes barrières. Nous sommes encore très très loin du compte, c'est même le contraire. Par exemple, sur la baisse des effectifs dans les classes, puisqu'aujourd'hui nous avons des effectifs qui sont trop importants pour permettre cette distanciation physique. Nous savons que les taux de respiration en fait explosent dans les classes, notamment à l'approche d'une période qui va refroidir. Ça sera plus difficile d'ouvrir les fenêtres, pour être très clair. Donc cette mesure-là qui est centrale, qui aurait demandé des embauches, etc., mais comme dans l'hôpital, n'est pas au rendez-vous. Donc les moyens ne sont pas là pour faire en sorte de lutter contre la pandémie, ne serait-ce que pour l'application des gestes barrières.
Rodrigo Arenas avec Marc Potvin. Thomas Pesquet va devoir encore un peu patienter dans la Station Spatiale Internationale. Son retour sur Terre a une nouvelle fois été repoussé à cause de vents violents sur la zone d'amérissage prévue au large de la Floride. L'astronaute français et ses trois coéquipiers devaient quitter l'ISS ce soir, mais le désamarrage de la capsule qui doit les ramener sur Terre est fixé à demain soir. Mais on n'est pas à l'abri d'un autre report, ce serait le quatrième. Didier Schmidt, responsable de la stratégie à la direction de l'exploration robotique et humaine de l'Agence spatiale européenne, répond à Sophie Becherel.
On a deux zones d'atterrissage possibles et dans les deux zones, dans le golfe du Mexique et au large de la Floride, on a depuis plus d'une semaine donc des problèmes de vent qui sont trop dangereux pour l'instant, hein, du point de vue sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un vent au niveau de la mer lors de l'atterrissage, ce sont aussi des vents d'altitude. C'est très dangereux puisque l'extraction des parachutes se fait en haute altitude. S'il y a trop de houle, s'il y a trop de vagues, bon, d'abord, c'est pas très agréable d'être chahuté comme ça dans une capsule, et ensuite, les équipages de secours qui vont venir avec le bateau et récupérer la capsule auront un petit peu plus de mal, parce que la capsule, elle flotte, hein, quand elle va amerrir, il y aura des énormes boudins qui vont se gonfler pour éviter évidemment qu'elle ne coule, et il faudrait pas qu'elle se renverse, parce que là, ça deviendra un petit peu compliqué pour faire les amarrages qu'il faut pour amener cette capsule sur le bateau qui vient les récupérer.
Didier Schmidt de l'Agence spatiale européenne. La politique ce dimanche avec une déclaration de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Jordan Bardella ne s'attendait pas à voir son parti doublé sur sa droite et il a ciblé Éric Zemmour en expliquant que son discours brutal offre la réélection d'Emmanuel Macron sur un plateau. Jordan Bardella était l'invité de Questions politiques à la mi-journée sur France Inter.
Éric Zemmour, c'est le vote assurance d'Emmanuel Macron. Que le seul qui se réjouit de la montée d'Éric Zemmour dans les sondages, c'est Emmanuel Macron. Parce que le discours d'Éric Zemmour est tellement caricatural et tellement brutal qu'il offre la réélection d'Emmanuel Macron sur un plateau.
Mais Marine Le Pen aussi, d'une certaine façon.
Éric Zemmour passe plus de temps à taper sur Marine Le Pen qu'à taper sur Emmanuel Macron. C'est quand même paradoxal. Moi, mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Parce que je pense que Éric Zemmour n'est pas en capacité de rassembler une majorité de Français. Et je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui réuni l'expérience, le projet, le sérieux nécessaire, la crédibilité, la capacité à rassurer une majorité de Français sur des idées qui sont diabolisées depuis 40 ans pour arriver à la tête de l'État et réunir au second tour une majorité de Français. Et tout état de cause, mon adversaire, c'est ni Zemmour, ni Dupont-Aignan, ni les LR. Je vais pas tirer ensemble sur une ambulance, mais c'est Emmanuel Macron.
Jordan Bardella dans Questions politiques avec Thomas Snegaroff. Encore un accident très grave de chasse aujourd'hui dans l'Aisne. Un chasseur âgé de 29 ans a été blessé au thorax au cours d'une partie de chasse privée. La victime hospitalisée à Reims est en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le tireur, âgé d'une trentaine d'années, s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. Il est ce soir en garde à vue. La ville de Marseille va déposer plainte après l'envahissement hier en fin d'après-midi du palais Omnisport de la ville. Plusieurs centaines de jeunes ont commis diverses dégradations avant d'être délogés par des policiers. L'un d'entre eux, un jeune homme, a été interpellé pour coup porté sur un policier. Une enquête va être ouverte. En Italie, la presse parle du procès du siècle. C'est en tout cas le procès le plus important de la mafia depuis la fin des années 80. Hier, la justice italienne a porté un coup très dur à la 'Ndrangheta, le groupe mafieux le plus puissant d'Italie. Les juges ont condamné 70 membres de cette organisation ou des personnes ayant des liens avec ce groupe mafieux. Certains accusés ont été condamnés à la peine maximale, 20 ans de prison. Sur place à Rome, Olivier Tosseri.
La justice italienne l'a baptisé Maxi Procès, la presse, le procès du siècle, celui qui vise l'Ndrangheta, la plus puissante mafia du monde, qui a son fief en Calabre, dans le sud de l'Italie, la région la plus pauvre du pays. Le procès s'est ouvert en janvier dernier et vise plus de 400 accusés. Le verdict a été rendu pour 91 d'entre eux. 70 ont été condamnés pour association mafieuse, tentative de meurtre, blanchiment d'argent, trafic de drogue et possession illégale d'armes. Parmi les condamnés, 6 se sont vus infliger la peine maximale de 20 ans requise par le procureur. Les personnes qui viennent d'être condamnées avaient opté pour un procès rapide à huis clos. 355 accusés attendent désormais d'être jugés. Les premières condamnations représentent un coup dur pour l'Ndrangheta après l'arrestation cet été à Madrid de l'un de ses principaux chefs, surnommé le boss des boss. La mafia calabraise, qui opère de façon très fluide et sans structure de contrôle central, est considérée comme la plus dangereuse, la plus étendue et la plus riche des organisations criminelles dans le monde. Elle gère notamment le trafic de cocaïne en Europe. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
L'Éthiopie s'enfonce dans la guerre civile. Les rebelles du Tigré, qui menacent de marcher sur Addis Abeba, ont écarté l'éventualité d'un bain de sang dans la capitale. De son côté, le gouvernement fédéral cherche encore et toujours à mobiliser la population. Pour cela, tous les moyens sont bons, y compris les réseaux sociaux, mais les messages postés, incitant parfois à la haine, sont jugés trop violents par les réseaux sociaux eux-mêmes. Facebook a même supprimé un message du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, sur place à Addis Abeba, Noé Ochebaudin.
Sur sa page personnelle, le Premier ministre demandait aux citoyens de se mobiliser et de, je cite, « s'emparer de n'importe quelle arme pour combattre, renverser et enterrer les rebelles tigréens du TPLF ». Un discours jugé trop extrême par Facebook. Selon la plateforme californienne, Abiy Ahmed enfreint ses politiques contre l'incitation et le soutien à la violence. Alors cette suppression a provoqué la furie du gouvernement éthiopien qui, dans un communiqué dénonçant la propagande blanche, a accusé Facebook de travailler main dans la main avec les rebelles et qu'avec cette censure, le réseau social n'avait fait que montrer son vrai visage. Twitter a aussi décidé d'agir devant la recrudescence des discours radicaux en Éthiopie en supprimant son outil tendance. La plateforme entend ainsi combattre un discours déshumanisant qui incite à la violence. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, France Inter.
Et s'il suffisait de marcher pour gagner de l'argent, c'est en tout cas ce que promet l'application française WeWord, un podomètre qui permet de cumuler des jetons, des words, selon votre nombre de pas. Chaque soir, vous validez vos pas et au bout d'un certain nombre, vous les échangez contre des bons d'achat ou un virement de 20 euros. Cette appli très populaire en France, elle compte plus d'utilisateurs que Candy Crush, a été créée il y a 2 ans par une jeune start-up française et elle a connu un véritable succès avec les grèves dans les transports fin 2019, mais également depuis la fin du premier confinement. Et avec plus de 4 millions d'utilisateurs, elle est aujourd'hui l'application qui compte le plus d'utilisateurs actifs, de quoi susciter des interrogations sur son modèle économique. Julien Morcelli.
Depuis qu'il utilise l'application, Manuel, lycéen, fait plus de marches.
Par exemple, faire 10 000 pas par jour, je me suis dit que je pouvais aller à mon lycée un peu plus à pied plutôt que de prendre les transports en commun.
En une semaine, il a gagné 3 euros. Ses pas lui ont rapporté une trentaine de centimes. Le reste, c'est grâce aux achats effectué dans des magasins partenaires.
Ça m'a un peu décidé à acheter quelques trucs. Il faut juste prendre en photo le ticket de caisse et vous gagnez 100 WeWord, 150. J'ai dépensé 40 euros.
Loin de compenser les 3 euros offerts par WeWord. Mais pour le patron de la start-up, Yves Benchimol, ses publicités sont liées à la pratique sportive.
Une personne, si elle commence à augmenter son temps de marche, elle va avoir des nouveaux besoins de consommation. Des chaussures pour pratiquer la marche à pied, des vêtements adaptés. Quand vous allez chez un commerçant, si vous dépensez par exemple 20, 30 euros, peut-être que le commerçant va vous attribuer l'équivalent de 1 euro pour être venu chez lui et donc ça représente forcément plus qu'un jour de marche.
Une explication qui ne convainc pas l'association de défense des libertés internet, la Quadrature du Net. Son cofondateur, Benjamin Sontag, voit dans l'application WeWord une plateforme de publicité déguisée.
C'est pas bon pour notre santé, c'est la façade que montre WeWord, mais derrière, leur modèle économique, c'est de vendre des temps de cerveau disponibles des internautes qui vont dans l'appli à des publicitaires pour nous faire acheter des trucs dont on veut pas.
De son côté, la direction de WeWord assure, étude à l'appui, qu'elle a augmenté de 25% le temps de marche de ses utilisateurs.
Julien Morcelli. 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Thomas Coignac.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Et l'affiche était belle, le combat a été à la hauteur au tournoi de tennis de Bercy.
Et à la fin, c'est le numéro 1 mondial qui a battu le numéro 2. Victoire de Novak Djokovic en finale du Masters 1000 parisien face à Daniil Medvedev. Match qui s'est terminé il y a un peu moins de 2 heures. Le Serbe s'impose 4-6, 6-3, 6-3. Une revanche pour lui parce qu'il avait perdu contre Medvedev en finale de l'US Open. Alors Djokovic semblait comme en mission, Guillaume Batin.
À 34 ans, Novak Djokovic n'a plus qu'un seul objectif, faire tomber les derniers records qui lui échappent pour trôner à la place de numéro 1 même après sa retraite. Cette semaine, il bat celui du nombre de saisons à la place de numéro 1 du classement ATP, 7, une de plus que Pete Sampras dans les années 90. Cette 6e victoire au Masters 1000 de Paris est aussi un record. Il était trop fort pour son adversaire, le russe Daniil Medvedev.
Je voulais vraiment gagner, mais t'es très fort et j'espère qu'on va jouer beaucoup de matchs comme ça en finale.
Avec ce nouveau titre, Novak Djokovic bat le record de victoire en Masters 1000.
Il obtient son 6e titre ici à Paris. Le 37e en Masters 1000 et c'est un record.
Une de plus que Raphaël Nadal, Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis.
On a vu un Novak Djokovic sur le terrain serein. Il est numéro 1 mondial encore et encore. Et c'est extraordinaire de voir le niveau de son jeu. Il a modifié un peu son jeu aussi. Il est allé beaucoup vers le filet. Je pense que les spectateurs très nombreux qui sont venus tout au long de la semaine étaient contents.
Mais le plus grand des records, celui que Medvedev a empêché Djokovic de décrocher à New York, ce sont 21 titres en Grand Chelem, peut-être au mois de janvier en Australie.
Et puis un peu plus tôt dans l'après-midi, déception pour le public de Bercy, puisqu'en finale du double, les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont inclinés contre la paire germano-néo-zélandaise Tim Putz, Michael Venus. Défaite au super tie-break pour les Français qui disputeront ensuite le Masters et la Coupe Davis.
Du football à présent avec un petit événement cet après-midi, Saint-Etienne a gagné un match.
Et les Verts ne sont plus derniers de Ligue 1 après 6 défaites et 6 matchs nuls cette saison, première victoire donc 3-2 contre Clermont cet après-midi. Et comme contre Lyon, comme contre Angers, les Verts ont renversé le match puisqu'ils étaient encore menés 2-0 à 12 minutes de la fin. Réaction du capitaine stéphanois Madi Camara.
C'est le foot, faut y croire jusqu'à la dernière minute. On est dans une position très compliquée au championnat, donc si on lâche, on est mort. Ça prouve qu'on a du caractère et ça fait plaisir. C'est un gros soulagement. Après, c'est à nous de pas se mettre dans ces conditions à chaque fois pour gagner un match, mais l'équipe a montré du caractère, ça fait plaisir. Maintenant, c'est à nous de continuer dans cette voie pour sortir de cette passe difficile. Franchement, tout le monde était soulagé, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas une période facile pour nous, mais après, c'est à nous de pas nous enflammer. C'est qu'une victoire. On est encore 19e, donc il faut continuer à travailler.
Et autre match qui vient de se terminé en Ligue 1, Nice, surpris à domicile par Montpellier 1-0. Les Niçois manquent l'occasion de reprendre la deuxième place. À noter cet après-midi que l'OM n'avance pas. Nouveau match nul pour les Marseillais, le 5e sur les 6 derniers matchs. 0-0 sur la pelouse du Vélodrome contre Metz. Dans le bas de tableau, belle opération de Brest qui sort de la zone rouge après sa victoire 2-1 à Lorient. On restera en Bretagne pour la fin de cette 13e journée puisque Rennes reçoit Lyon à partir de 20h45.
Et vous l'avez vécu à la mi-journée sur France Inter, 158 marins ont attaqué la traversée de l'Atlantique. C'est la Transat Jacques Vabre.
Oui, on est parti du Havre depuis précisément 5h50, direction la Martinique. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Thomas.
Où en est-on Jérôme avant cette première nuit en mer ?
Eh bien, écoutez, à l'heure où je vous parle, les bateaux les plus rapides de la flotte, hein, les fameux trimarans ultimes volants, ont déjà avalé la pointe du Cotentin, avec toujours en tête pour l'instant Franck Camas, Charles Caudrelier. C'est d'ailleurs ce duo qui avait pris tout à l'heure le meilleur départ du Havre avec des vitesses moyennes impressionnantes, plus de 39-55 km/h, alors que ça ralentit comme prévu à l'arrière du peloton, notamment pour les Imoca, vous savez, les monocoques du Vendée Globe. Charlie Dalin, le Havrais, n'avance plus qu'à 11 nœuds en ce moment, avec lui, le Cotentin en vue. D'ailleurs, globalement, ça ne va pas aller très vite hein, sur ces premiers jours de course. Il y a une bulle anticyclonique bien calée sur la pointe bretonne au moment d'entrer dans l'Atlantique. Il faut donc soit prendre la route plein sud, mais là les alizés sont plutôt faiblards, soit aller à l'ouest, et là c'est une succession de dépressions automnales qui attend les skippers. Bref, ce n'est pas facile du tout, il y aura des choix stratégiques à faire sans doute demain matin. En tout cas, on ne devrait pas battre des records, et Thomas, l'euphorie du départ canon qu'on a vécu tout à l'heure est bien derrière elle.
Merci Jérôme Val en direct du Havre pour France Inter. Et puis, le champion du monde de MotoGP à terre cet après-midi, après 2 semaines à savourer son titre de champion du monde, le français Fabio Quartararo est tombé pour sa course de reprise au Grand Prix de l'Algarve au Portugal. Victoire de l'Italien Bagnaia. Il reste encore une course à disputer à Valence, en Espagne, la semaine prochaine.
Et on va maintenant revenir sur les ambitions françaises avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif a été fixé par Emmanuel Macron, intégrer le top 5 des médaillés olympiques et paralympiques à Paris. Comment optimiser les performances des athlètes français et obtenir plus de médailles qu'à Tokyo, 33 podiums seulement. Depuis la rentrée, le débat revient régulièrement sur le devant de la scène et parmi les solutions proposées pour y parvenir, il y a la science où quand mathématiciens et chercheurs universitaires travaillent main dans la main avec les fédérations en quête de gains marginaux. C'est le long format de ce soir signé Fanny Le Chevestrier.
Car c'est bien connu, l'or olympique se niche dans les détails et jusque dans les pédaliers des pistards tricolores équipés depuis les Jeux de Tokyo d'une petite diode bleue, un capteur de puissance novateur qui doit permettre aux bleus d'améliorer leur performance d'ici 2024. Cela fait partie d'un vaste projet inédit de coopération entre chercheurs universitaires et fédérations olympiques porté par Christophe Clanet, physicien au CNRS.
La genèse du projet, c'est de se dire que comme on recevait les Jeux, les scientifiques pouvaient participer à l'aventure en se mettant au service des fédérations. Ce qu'on a en tête chaque fois, c'est de faire le lien avec des gains possibles. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on fait sert ? Il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres, évidemment. Mais la friction des pneus, c'est plus facile que la déperdition énergétique de la tête suivant la température de la salle.
Mais avec déjà des résultats, souligne Caroline Cohen, enseignante-chercheuse à l'école polytechnique qui travaille justement avec l'équipe de France de cyclisme sur piste.
Un des premiers résultats, c'est de voir comment la géométrie du vélodrome va jouer sur à la fois la puissance produite et la vitesse atteinte. Ça, c'est quelque chose auquel on pense pas, parce qu'on se dit, les vélodromes, ils ont tous la même forme, et en fait, pas du tout. Et donc, il y a des petits détails qui peuvent permettre de faire des différences.
Les fédérations regardent aussi de plus en plus près ce qui se fait dans les structures professionnelles. À Besançon, cela fait ainsi 3 ans que la Groupama FDJ, l'équipe cycliste de Thibaut Pinot, a ouvert son propre centre d'optimisation de la performance, en lien avec l'Université de Franche-Comté.
En plus, c'est très pédagogique, parce qu'il l'a vu en direct.
À sa tête, Fred Grapp, docteur en sciences du sport.
Il faut qu'un entraîneur aujourd'hui il soit en mesure de faire mieux travailler son athlète avec une même charge d'entraînement. Parce que si vous augmentez la charge d'entraînement, indéfiniment on ne peut pas. On va fatiguer l'athlète et on va le casser en deux. Donc l'idée là c'est justement de rechercher des optimisations en se disant comment on peut faire mieux. Comme vous avez pu le voir, on investit des dimensions au niveau de la science qui sont très novatrices.
On étudie plus seulement la position sur le vélo ou l'aérodynamisme, mais aussi par exemple l'effet du chocolat noir sur le niveau de force. On travaille également aujourd'hui beaucoup sur l'environnement virtuel.
Ça peut être utile, notamment par exemple pour tout ce qui est appréhension, tout ce qui est émotion. Et puis après, ça a un réel intérêt aussi dans les performances. Parce que l'entraînement, même mental, ça a un impact sur la performance. On peut s'améliorer en s'entraînant uniquement mentalement. Que ça active en fait une grande partie du réseau électrique, on va dire, du cerveau au muscle.
Vous allez voir, c'est surprenant. Tu vas voir, t'es immergé.
L'optimisation mentale, qui est l'un des grands chantiers d'avenir pour améliorer encore les performances des champions.
La science pour optimiser les performances, Fanny Le Chevestrier.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et comme tous les dimanches soirs, on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. À noter demain, lundi, la conférence de presse de clôture de l'Assemblée plénière des évêques de France. On attend l'annonce de décisions prises pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église et le processus de réparation pour les victimes. Sur l'agenda judiciaire, 2 rendez-vous fixés mercredi. François Hollande témoigne au procès des attentats du 13 novembre et le verdict attendu au procès des 2 hommes accusés du meurtre antisémite de Mireille Knoll. Jeudi, Emmanuel Macron préside la cérémonie d'inhumation d'Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération décédé le mois dernier à l'âge de 101 ans. À noter également jeudi, la 4e édition du Forum de la paix à Paris en présence de plusieurs chefs d'État, ce qui nous amène à l'agenda international avec la visite à Paris toujours jeudi de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Une visite de 5 jours dans un contexte de réchauffement des relations entre la France et les États-Unis après l'affaire des sous-marins australiens. Une rencontre est prévue avec Emmanuel Macron à l'Élysée. La venue de Kamala Harris est avant tout symbolique, selon Romain Huré, historien des États-Unis. Il est au micro de Benjamin Hilly.
Déjà, ça veut dire beaucoup de choses pour elle, hein, puisqu'on sait qu'elle a eu du mal à s'imposer sur la scène internationale. Ensuite, je crois qu'il y a une deuxième raison qui est diplomatique d'un point de vue international. Il va y avoir un sommet sur la Libye qui est important hein, pour régler les tensions au Proche et au Moyen-Orient. Donc elle va imposer aussi la voie américaine. Et enfin, il y a la querelle franco-américaine, hein, une tension avec un allié ancien des États-Unis. Et on imagine facilement que le président Joe Biden hein, l'a envoyé en mission, même s'il faut être très réaliste. Hein, ce n'est pas la venue de Kamala Harris qui mettra un terme à ses pratiques hein, économiques extrêmement violentes. Hein. C'est un apport symbolique qu'elle apporte. Hein. Elle rappelle que la France est un allié ancien en espérant que cela permettra d'apaiser les tensions et de câliner l'opinion publique française qui, dans son ensemble, a été assez choquée hein, d'apprendre les manœuvres américaines dans cette affaire dénoncée par le président Macron.
Et on terminera la semaine avec la conférence internationale sur la Libye, conférence à Paris. Et on en arrive maintenant à la friandise de ce 19h. C'est mon actu, Sandrine Houdin, avec ce soir un parfum de marron chaud et aussi de chocolat. Et on va pénétrer dans l'installation d'une vitrine de Noël. Les premières vitrines animées des grands magasins parisiens seront dévoilées mercredi. Qui n'a pas de souvenir d'enfance, le nez collé à la vitre devant ces petits automates et ces scènes féeriques, près de 10 millions de personnes se pressent devant ces vitrines tous les ans, entre novembre et décembre, et pour cause, ces spectateurs au regard d'enfant, Sylvain Ducroux, est le fils et le petit-fils d'une famille de marionnettistes qui animent ces petits pantins dans les vitrines depuis des décennies. Sandrine Houdin l'a rencontré enchevêtré dans des kilomètres de fil dans une des vitrines du printemps Haussmann pour les derniers jours de réglage. Visite de la vitrine accroupie.
Attention, la tête, hein, surtout.
Toi, tu passes pas.
Je suis énorme. Ah, j'ai pas dit ça.
Mais disons que t'es un peu plus grande que les lutins, tu vois. Attends.
Waouh ! Mais c'est génial.
Donc, les lutins, ils sont en train de piocher sur des roches en or. Tac, on y va. Regarde là. Hop, pas mal.
Ah ouais.
Youp. Il y a une autre vitrine ici. Ils sont en train de manger. Dans la cuisine. Alors, il y a un crabe qui est en train de manger un lutin. Crac, l'autre, il essaye de lui enlever. Il y en a un qui tape sur une amande comme ça avec la cuillère. Il fait de la percussion, etc. C'est rigolo. Que des lutins ici. 120 lutins, là, sur le boulevard. 120. C'est pas 3-4. 120.
Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit « Ah non, c'est mort, là, pour l'interview. Je suis dans les fils. J'ai même pas le temps de faire pipi. » Ça veut dire quoi?
Mais oui, c'est terrible. Il y a une vitrine ici. Il y a 25 personnages. C'est une fanfare. Non seulement ils font de la fanfare, mais ils marchent en plus. Donc ils tournent et ils jouent.
C'est un boulot de dingo. Le plus dur, c'est quoi?
Le plus dur, c'est d'animer le personnage, trouver le bon geste. Lui, il hume le parfum. J'ai mis peut-être 3 quarts d'heure à lui faire humer le parfum. Il m'a donné du fil à retordre.
C'est le cas de le dire.
Mais ça se fait dans la joie.
Ça se voit à vos yeux.
Eh oui. Tout petit, j'avais déjà mon grand-père qui faisait des vitrines animées. La maison de mon grand-père, c'était un peu l'atelier de Gepetto, quoi. Rempli de marionnettes, il y en avait partout dans la maison. Ensuite, il y a eu mon père. C'est la troisième génération.
Mais vous, là, vous bossez comme un dingue?
Ouais, c'est lourd des fois. Il y a beaucoup d'heures. Chaque moteur, on va mettre 12 fois 3 mètres de fil.
Pardon?
Chaque moteur, 12 fois 3 mètres. Et il y a ici, il y a une centaine de moteurs. Ça fait beaucoup de fil.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous?
Moi, ce qui me plaît, c'est donner du plaisir aux gens. C'est génial, quoi.
Mais là, on est tous les deux, là, dans la vitrine. Vous avez quel âge, quoi?
8 ans. 8, 9. Allez, 9 max. Cette vitrine à côté, là, où ils font tous les andouilles. Là, bah oui, ça m'éclate. C'est pour ça, moi, je fais ce métier.
Vous fermez les yeux, je vous dis vitrine de Noël. Vous êtes en plein milieu de vos fils, là. Toc!
C'est fabuleux. Incroyable. Peut-être la magie. Hein. La magie de Noël.
Voilà, Sylvain Ducloux et les vitrines de Noël. C'est mon actu. Sandrine Houdin au générique de cette édition. Alexandre Chenet et Louis Audebert en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Nicolas Sabat. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un lundi très venté autour de la Méditerranée avec de puissantes rafales pour les Mistral, la Tramontane et entre la Corse et le continent. De plus, en marge de la dépression située vers la Sardaigne, des pluies d'orage vont toucher la partie est de la Corse en donnant des quantités de précipitations conséquentes en seconde partie de journée. Du golfe du Lion à la Provence, le soleil va s'imposer, mais partout ailleurs les éclaircies seront plus aléatoires, avec globalement une matinée sous une grisaille compacte en toute région et parfois un peu de pluie des Pyrénées au Massif central et du brouillard dans la moitié nord. En journée, l'évolution sera lente, mais le ciel va partout souvent prendre un aspect plus lumineux. Au réveil, les températures relativement douces sur les côtes vont globalement tomber entre 3 et 5 degrés dans l'intérieur, localement 0 dans le Grand Est. En journée, il est prévu 10 degrés sur l'Alsace et la Franche-Comté, 11 à 14 sur le reste de la moitié nord, ainsi qu'en Rhône-Alpes et dans le sud-ouest, et 16 à 19 autour de la Méditerranée.